Avant que de méditer l'Évangile, un instant, je veux d'abord vous donner lecture d'une lettre que notre archevêque, Monseigneur Aupetit, vient d'écrire pour les prêtres et les diacres. Je ne doute pas qu'il s'adressera demain, lors de la messe chrismale, à l'ensemble du peuple de Dieu qui est à Paris, mais voilà ce qu'il dit aujourd'hui aux prêtres et aux diacres. Nous sommes traversés d'une immense tristesse. Notre-Dame de Paris, notre belle cathédrale où chacun de nous a vécu des moments si forts de grâce et de communion, est en partie détruite par le feu. Nous sommes devant un grand mystère au cœur de la Semaine Sainte, pendant laquelle nous accompagnons le Christ dans sa passion et dans sa mort, pour fêter enfin sa résurrection glorieuse au jour de Pâques. Nous savons déjà, devant l'immense émotion et l'incroyable solidarité qui se sont manifestées, que tout sera reconstruit. Mais nous comprenons aussi, à l'exemple de saint François d'Assise, que nous devons entendre l'appel du Seigneur à rebâtir l'Église, son Église tout entière. C'est à la suite du Christ, la diffusion vécue de son message et l'élaboration d'un monde fondé sur l'amour, à son image, qui édifiera la société de fraternité à laquelle tous les hommes aspirent. Je sais que vous avez donné votre vie pour cela et que vous restez fidèles au-delà des multiples épreuves que nous traversons. Soyez-en remerciés du fond du cœur. Bien sûr, notre Semaine Sainte va s'en trouver profondément perturbée. C'est à Saint-Sulpice que se déroulera demain la messe chrismale à 18h30. En communion avec chacun d'entre vous dans la charge que nous a confiée le Seigneur Jésus, je vous redis mon amitié fraternelle et mon affection. Tournons notre regard vers Marie, notre mère, sentinelle de l'espérance. Notre-Dame de Paris, priez pour nous. Michel Aupetit, archevêque de Paris. Mes bien chers frères, voilà que nous venons de lire un évangile terrible, celui où Judas trahit son Seigneur. Il y a ce qui est de la trahison et de la perte dans ce qui nous arrive. Il y a, Dieu merci, ce qu'il y a de la fidélité et de ce qui est gardé pour la vie éternelle. Dieu merci. La trahison et la perte, c'est ce que nous venons d'expérimenter. Le feu qui détruit une forêt incommensurable, 21 hectares de chênes détruites en 3 heures. Un lieu de prière, un trou béant dans la cathédrale, des œuvres d'art perdues, quelque chose d'irrémédiable. Voilà ce qui est engendré par le mal. Car à un moment ou un autre, Satan entre dans le monde, soit par inadvertance, soit par méchanceté. Inadvertance des hommes ou méchanceté des hommes, Satan est toujours déterminé et quelque chose est perdu. Ici, c'est dans Judas qu'il est entré. Ne cherchons pas les ennemis à l'extérieur. Judas était parmi les meilleurs. Judas était parmi ceux qui avaient été choisis par le Seigneur, nantis de toutes les grâces nécessaires pour devenir un apôtre du Christ, un fondement de l'Église. Et voilà que Judas a préféré le monde à la vie éternelle. Voilà qu'il a préféré l'argent par jalousie, par cupidité, peut-être par les deux, et qu'il n'a pas choisi de servir son Seigneur. N'en doutez pas un instant, mes bien chers frères, c'est le mal spirituel qui engendre le mal matériel. Ce feu ne vient pas de nulle part. Ce feu vient d'un engendrement du mal, d'un dérèglement du monde. Et nous le savons, nous les chrétiens, nous ne sommes pas des chrétiens, des heureux naïfs. Nous voulons regarder le mal tel qu'il est et nous savons qu'il est d'abord ici dans mon cœur. Bien sûr, on ne peut pas faire un lien direct entre le mal que j'ai commis et ce qui survient dans le monde, mais il y a un lien général, cela s'appelle la communion des saints en positif, cela s'appelle le péché originel en négatif, cela s'appelle le péché de tous les hommes qui nous abaisse sans cesse. Le monde a été créé par l'Esprit et toute matière est issue de l'Esprit. À chaque fois que dans le monde je ne suis pas fidèle, à chaque fois que moi je ne suis pas à la hauteur de la grâce que j'ai reçue, par inadvertance ou par méchanceté, un mal inéluctable s'ensuit dans le monde. Si les chrétiens, carême après carême, tentent de se battre, tentent d'élever leur âme, ce n'est pas juste une petite histoire personnelle. C'est pour que le monde en soit élevé, c'est pour que l'Église en soit élevée et qu'enfin soit manifesté le Christ. Ce qui est perdu en Judas, c'est une chance extraordinaire de servir Dieu et son message, la concorde et l'amour, le salut, la rédemption que le Christ apporte, il l'apporte par des hommes. Si carême après carême, nous voulons refaire quelque effort et tenter de nous mettre au service du Christ, c'est pour être à la hauteur de ce salut proposé au monde et qui a besoin de bras, qui a besoin de langues, qui a besoin d'actes bons pour se propager, car le Seigneur a voulu nous sauver avec notre propre coopération. Voilà pour ce qui est perdu, voilà pour ce qui est triste, et bien entendu, c'est la tristesse en tout premier, la profonde tristesse, comme le dit notre archevêque, l'effroi et la terreur qui nous a d'abord saisis. Mais mes bien chers frères, ce malheur ne peut pas effacer de nos cœurs la joyeuse espérance de savoir que quelque chose est sauvé. Ce qui est sauvé ici, mes bien chers frères, dans ce passage de l'Évangile, ce sont évidemment les autres apôtres, les 11 apôtres qui sont restés fidèles, ceux qui ont refusé de choisir le monde, ceux qui ont refusé l'argent, ceux qui ont refusé les honneurs qui leur étaient possiblement proposés, ceux qui ont refusé de servir le mauvais. Alors nous voulons en être. Voilà pourquoi à travers cette semaine sainte, en suivant notre Seigneur, outragé, crucifié, mort sur la croix, nous voulons être sûrs que nous choisissons vraiment le Seigneur à grand prix. Oui, le salut qui nous est proposé passe à travers ce malheur. Il passe à travers ces flammes. Il passe à travers ces murs ébranlés qui continuent d'être refroidis à l'heure où je vous parle. Ces murs qu'il va falloir consolider. Et comme le dit si bien notre archevêque, cette église qu'il faut rebâtir. Bien sûr, les dons vont affluer, et nous l'espérons, car nous en aurons besoin pour rebâtir matériellement cette église. Nous aurons besoin de patience et de temps. Il nous faudra trouver 21 hectares de chênes secs pour rebâtir une telle charpente. Et peut-être nous faudra-t-il du temps, mais c'est dans le temps que nous inscrivons notre salut. Ce déroulement du temps qui est ma vie m'est justement donné pour choisir le Seigneur. Ce qui est sauvé, vous le savez, ça peut-être été votre joie hier soir, ce fut la mienne, après une longue attente, c'est de savoir que d'abord les saintes espèces qui étaient réservées au tabernacle avaient été sauvées. Je n'ai pas la confirmation, mais peut-être par un aumônier, par un prêtre, aumônier des pompiers de Paris. Et puis, après le Saint-Sacrement le plus précieux de ce qui se trouvait dans cette église, ce qui vivifiait cette église, eh bien c'est la couronne d'épines. La couronne d'épines de notre Seigneur, la relique la plus insigne de la chrétienté, que Saint Louis acquit, Louis IX, roi de France, qu'il rapporta, vêtu d'une simple tunique de lin, qui fut sauvée hier soir aussi, conservée dans le trésor de Notre-Dame. Nous avons sauvé, mes bien chers frères, l'essentiel. D'ailleurs, les pompiers, ce matin, en pénétrant dans la cathédrale, ne s'y sont pas trompés. Ils n'ont vu qu'une chose, avant de voir le trou béant, avant de voir l'ampleur des dégâts, ils ont vu la croix du fond de Notre-Dame. Cette croix dorée qui éclairait non pas des éclairages qui n'existaient plus, mais le soleil passant par le trou béant de la nef qui tombait sur la croix. Alors, mes bien chers frères, il nous faut regarder cette croix glorieuse à travers les décombres, car telle est notre vie. C'est à travers notre péché, à travers nos misères, à travers nos manques, que la croix va pouvoir resplendir. Elle nous est donnée comme une grâce. Cette grâce, il va falloir la découvrir, jour après jour, la redécouvrir. Un journaliste, tout à l'heure, entrant dans Saint-Roch, me posant quelques questions, regarde le cœur et me dit « Est-ce en rapport avec ce grand malheur arrivé aux chrétiens que vous avez voilé les statues ?» Il ne savait pas que nous voilons nos statues justement parce que nous nous apprêtons à voir disparaître le Christ un instant. Cela est douloureux. Cela est toujours douloureux de ne pas voir exactement où nous en sommes. Il faut s'abandonner. S'abandonner à la providence qui vient. Et c'est Saint-Pierre qui en fait le premier ici l'expérience. Il veut suivre son Seigneur, car il est complètement donné, et nous aussi. Mais voilà, pendant un instant, nous ne pourrons suivre complètement le Seigneur. Il nous faut accepter d'avoir les yeux aussi voilés, de ne pas comprendre immédiatement pourquoi un tel mal survient et dans quelles conditions. Il faut accepter de croire notre Seigneur, de porter avec lui la croix et de croire vraiment qu'il ne permettra pas qu'un mal soit survenu sans qu'un plus grand bien puisse arriver. Alors, mes bien chers frères, nous qui attendons la résurrection du Seigneur à Pâques, nous qui nous apprêtons à nous réjouir profondément à Pâques, je vous invite à garder les yeux fixés sur ce voile, sur ce noir, cette fumée qui a couvert la cathédrale un instant, qui couvre et enténèbre nos cœurs certainement, qui couvre bien plus certainement encore nos intelligences, mais c'est à travers cet épais voile de fumée que le Seigneur va faire resplendir sa croix glorieuse et bienfaisante qui va nous mener à la vie. Notre-Dame, l'église mère de la cathédrale, l'église mère de notre diocèse, n'est pas morte. Elle est restée debout avec ses beffrois, avec ses cloches, certainement toutes fragilisées, toutes endolories. Il nous faut maintenant, ses enfants, nous porter à son secours et aux pierres et à l'Église du Christ répandue dans notre ville afin que se fortifie définitivement et s'établisse profondément par ce cœur de mère bienveillant qui veille sur nous la gloire du Seigneur dans nos vies. Mon dernier mot sera pour la flèche de la cathédrale, partie en fumée, dans laquelle se trouvait enchâssée une relique de Saint-Denis, patron de notre diocèse, une relique de Sainte-Geneviève, patronne de Paris, et un petit morceau de la couronne d'épines. Alors, croyons bien que comme toute purification, c'est en Dieu, quand nous vénérons ces reliques, ces restes des saints ou de ce qui leur a appartenu, c'est Dieu que nous glorifions. Ni le feu, ni le mal, ni le péché, ni même la mort, rien ne nous séparera jamais de l'amour du Christ. Ainsi soit-il.